Calade, ma radio.
Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture.
De Villefranche à Tataouine. Auditeurs de Caladma Radio, bonjour, c'est l'heure de votre émission favorite Couleurs du Monde et pour ce mois de mars, on va rencontrer un professionnel pour parler de la kinésithérapie. On est en compagnie de Hervé.
Bonsoir.
Et de Hervé.
Bonjour.
Mais bien entendu, comme c'est le cas habituellement dans notre émission, on va commencer par les nuances du monde.
Calade.
Les couleurs du monde. Et c'est au tour de Jean-François de s'y coller aujourd'hui. De quoi tu vas nous parler, Jean-François ?
Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la peste noire et de l'enquête, finalement, qui explique cette catastrophe. Alors pour contextualiser un petit peu, nous sommes en 1348. Un chroniqueur parisien écrit « Il y eut une telle mortalité d'hommes et de femmes qu'on pouvait à peine les ensevelir. Ils avaient des grosseurs sous les aisselles ou dans l'aine, signe infaillible de mort. » Ce fléau qui s'abat sur l'Europe, c'est la peste noire. Entre 1346 et 1353, elle aurait tué jusqu'à 60% de la population d'Eurasie occidentale. Alors pour Patrick Boucheron, le célèbre médiéviste, c'est la plus grande catastrophe démographique de l'histoire de l'humanité. Mais aujourd'hui, près de 7 siècles plus tard, les scientifiques mènent toujours l'enquête, car la peste noire n'est pas seulement une épidémie, c'est un véritable dossier criminel. Et on connaît désormais l'identité de la meurtrière, Yersinia pestis. Elle ne sera identifiée qu'en 1894 par le médecin Alexandre Yersin. Mais au XIVe siècle, on ignore tout des microbes. On cherche des explications dans la colère divine, les conjonctions australes, l'air corrompu. La vraie question reste donc, comment cette bactérie surgit-elle en Europe ?
Et les historiens enquêtent du coup sur un premier suspect, le climat, c'est bien ça Jean-François ?
Ouais, effectivement, hein, parce que depuis plusieurs années, historiens et climatologues croisent leurs recherches. Ça commence par l'historien britannique Bruce Campbell qui parle d'une grande transition climatique à partir de 1270. Jusque-là, l'Europe bénéficiait d'un climat relativement doux. La population augmentait, l'économie agricole prospérait, était bénéfique. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'optimum climatique médiéval. Puis, tout bascule. Hiver froid, pluie excessive, été humide, l'Europe est entrée dans le petit âge glaciaire. Les récoltes deviennent médiocres, les famines se multiplient, et en 1315 en Europe du Nord, puis en 1329 en Italie, et il y a encore des famines dans les années 1340. Alors donc on a des sociétés qui étaient déjà fragilisées par la sous-alimentation, et elles deviennent encore plus vulnérables.
En fait, c'est dans ce contexte-là que la peste arrive, donc sur des populations qui sont déjà bien affaiblies.
Oui, exactement. Hein. Et ce n'est que le début, parce qu'en 2025, il y a deux chercheurs, Martin Bauer et Ulf Bunken, qui ajoutent un élément spectaculaire, une série d'éruptions volcaniques autour de 1345. Des carottes de glace prélevées au Groenland et en Antarctique révèlent une injection massive de soufre dans l'atmosphère.
Okay.
Conséquence, un refroidissement brutal. Les chroniques décrivent un ciel jaunâtre, un air rougeâtre, des étés anormalement froids. Le climat se dégrade encore plus que d'habitude. Les récoltes s'effondrent. La famine s'installe durablement dans le sud de l'Europe et même dans le bassin méditerranéen. On a donc ici un terrain idéal pour une catastrophe sanitaire.
Mais pourtant, la bactérie, elle ne naît pas en Europe.
Ouais, tout à fait, hein, parce que en 2022, on le sait maintenant, depuis 2022, il y a des analyses ADN qui situent l'origine de la peste noire près du lac Issyk-Kul, en Asie centrale, okay. Dans l'actuel Kyrgyzstan. Alors, des chercheurs ont étudié des squelettes qui datent de 1338-1339 et reconstitué le génome ancien de la bactérie.
C'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire.
Ouais, avec les progrès actuels, c'est terrible. Et puis, on arrive à savoir que la peste circule chez les rongeurs des steppes d'Asie centrale, puis elle progresse vers l'ouest. Elle atteint ensuite le port de Kaffa, sur la mer Noire, en 1346. Alors, longtemps d'ailleurs, on a accusé les Mongols de la Horde d'Or, car selon une célèbre chronique, les Mongols auraient catapulté des cadavres infectés par-dessus les murailles de Caffa. C'est une scène extrêmement spectaculaire, mais en fait, probablement fausse.
C'est la question que j'allais poser.
Ouais, parce qu'en 2021, on a une historienne, Anna Barker, qui démontre que cette histoire repose sur une mauvaise lecture d'un texte médiéval. Okay. La peste ne s'explique pas par un acte de guerre biologique prémédité. Elle suit un chemin beaucoup plus banal et plus inquiétant.
C'est-à-dire, tu peux nous expliquer un peu?
Bah ouais, parce qu'en 1347, les grandes cités italiennes, Venise, Gênes, Pise, sont frappées par la famine. Elles lèvent leurs embargos commerciaux et importent massivement des céréales depuis la mer Noire. Ces cargaisons de blé transportent des passagers clandestins. Eh oui, des petits rats. Et sur ces rats, qu'est-ce qu'il y a? Des puces infectées par Yersinia pestis.
Donc ça arrive par les rats.
Exactement. Ouais. Et la bactérie, elle a acquis au cours de son évolution un gène qui lui permet de coloniser l'intestin des puces. Et lorsqu'elle pique un humain, elle régurgite le bacille. Okay. La diffusion devient ainsi explosive.
Et donc finalement, si je comprends bien, c'est en voulant lutter contre la famine qu'on a favorisé la peste.
Ouais, et c'est toute l'ironie de cette histoire. Hein. Puisque certaines villes autosuffisantes en céréales, comme Milan par exemple, seront relativement épargnées par la première vague de peste.
Eh ouais, le plus terrible, c'est qu'avec cette donc Yersinia pestis, c'est que c'est une bactérie qui s'adapte très bien, c'est
ça ? Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Yersinia pestis, c'est une bactérie assez jeune, finalement, à l'échelle évolutive. Elle descend d'une bactérie beaucoup moins dangereuse, mais elle a acquis plusieurs atouts génétiques. D'abord, c'est un gène qui lui permet d'envahir le sang de la lymphe. Ensuite, elle a la capacité d'échapper au système immunitaire. Et enfin, et surtout, j'ai envie de vous dire, c'est l'aptitude à se transmettre par les puces. Donc, elle ne peut pas provoquer la peste bubonique avec ses fameux ganglions, enfin pardon, elle peut provoquer la peste bubonique avec ses fameux ganglions enflés, hein, qu'on voit souvent dans les caricatures, dans les images, ou alors la peste pulmonaire, encore plus contagieuse finalement, c'est donc un cocktail tout à fait mortel.
Et alors, quelle conclusion est-ce qu'on peut relever finalement de cette enquête ?
Eh ben, ce que révèle cette enquête, c'est que la peste noire n'est pas un simple accident biologique. Comme le rappelle l'historien de la médecine Guillaume Lachenal, un pathogène ne suffit pas à faire une pandémie. Il faut un contexte climatique dégradé, des sociétés déjà affaiblies, des réseaux d'échanges intensifs et des décisions politiques qui permettent tout cela. Au fond, la peste noire, ça révèle déjà une forme de mondialisation médiévale.
Et donc, une pandémie, c'est toujours le produit d'un monde connecté ?
Oui, hein, plus les connexions sont denses, plus la diffusion est rapide. La peste noire, comme le Covid-19, bien plus récemment, hein, nous rappelle que les épidémies sont des révélateurs. Des révélateurs d'un climat, des révélateurs d'inégalités et aussi des révélateurs de nos interdépendances. Et en 1348, les contemporains voyaient dans la peste un châtiment divin. Aujourd'hui, l'enquête scientifique raconte une autre histoire, celle d'un enchaînement complexe entre nature, microbes et choix humains. Une tragédie médiévale, mais finalement aussi une leçon très moderne.
Galade.
Les couleurs du monde.
Alors, on est toujours dans l'émission Les couleurs du monde et on est en compagnie de Hervé et Hervé pour parler de la profession de kinésithérapeute. Hervé, du coup, numéro 1. On va le laisser présenter Hervé numéro 2.
Voilà, donc d'abord, ben, je me présente. Donc, j'étais sur l'autre micro la dernière fois. J'étais interviewé par Emma. Et aujourd'hui, c'est Hervé, kinésithérapeute, qui est... au micro auquel j'étais la dernière fois. Est-ce que, chers auditeurs, chères auditrices, vous pensez qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais vu un kiné ? Alors, en préparant l'émission, je me suis dit, ben, un enseignant, tout le monde a vu un enseignant, des coiffeurs, tout le monde a vu des coiffeurs. Et le kiné, ben, peut-être que tu peux, ou peut-être tu pourras nous dire tout à l'heure, Hervé, si... À ton avis, beaucoup de personnes. Moi, j'ai pensé à mon papa. Je crois qu'il n'a jamais vu de kiné.
Ça existe. Hein.
Bon, en tout cas, je pense que dans notre génération, c'est quand même une profession que tout le monde connaît. Enfin, tout le monde a rencontré. Mais on va découvrir dans cette émission peut-être des aspects qu'on ne connaît moins de ce que fait un kiné. Donc pendant 40 minutes, on va mieux connaître ce métier. Et surtout, on va rencontrer une personne. Une personne qui aime bricoler, et qui sait même très bien bricoler, qui aime écouter de la musique, qui aime son épouse et ses enfants et ses petits-enfants qui arrivent, qui fait du sport et qui soigne les gens. Bref, une personne ordinaire, une personne unique, comme nous tous et nous toutes. Grâce à lui, nous allons découvrir un parcours, un métier, et peut-être que ça va changer quelque chose pour vous. Alors, bienvenue Hervé.
Merci.
Tu travailles actuellement au centre Grenette, un cabinet de kinésithérapie que tu partages avec tes collègues, situé au centre-ville de Villefranche.
Exact.
Oui. Et dis-moi, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as entendu parler pour la première fois de ce métier? Comment s'est passée ta première rencontre avec le métier? Est-ce que tu te souviens?
Ah oui, oui, oui. J'étais jeune homme, lycéen à Claude Bernard à Villefranche. J'avais des problèmes de dos, donc j'ai eu des soins. Ça m'a orienté sur ce métier. Quand j'étais lycéen, j'avais deux choix. J'ai fait un bac scientifique. J'avais deux choix de métiers qui s'offraient à moi, deux métiers de soins, pharmacien et kinésithérapeute. Donc, une fois validé mon bac, je suis allé à Lyon. J'ai tenté la fac de pharmacie deux fois. J'étais pas forcément le plus motivé par les études de pharmacie. Donc, résultat, j'ai échoué. Je suis retourné à la case départ en disant, bon, maintenant kiné. Donc, en fait, je me suis inscrit à la fac de sciences, boîte à colle en plus pour assurer le coup. À la fin de cette année décisive, j'ai passé les quatre concours, Lyon, Grenoble, Montpellier et Toulouse. J'ai réussi les quatre concours. Donc, j'ai fait des heureux parce que, en fait, je me suis désisté sur ces listes.
Comme Parcoursup aujourd'hui.
Voilà. Et puis, j'ai choisi donc l'école de Lyon. C'était, on va dire, quand même assez pratique pour moi. Je me suis mis en stand-by d'un an pour pouvoir faire l'armée, parce qu'à l'époque, il y avait encore le service militaire que j'ai fait dans le service de santé.
Je voudrais savoir, dans ce que tu nous as dit là, t'hésitais entre pharmacien et kiné.
De métier dans les soins, ouais.
Ouais. Pourquoi tu avais d'abord choisi pharmacien? Est-ce que c'était tes parents? Est-ce que c'était...
Non. Je suis issu d'une famille de quatre enfants, de parents artisans qui... ça ne roulait pas sur l'or, mais on vivait correctement. Ils nous ont donné le goût de l'effort, le goût du travail à l'école, etc. Donc, c'était un choix de... J'étais, on va dire, tourné quand même vers des métiers de soins et d'aide aux autres, quand même. Ouais, hein. Donc, ouais. Pharmacien, c'est par le médicament. Ouais. Kiné, c'est par les mains, ouais, essentiellement. Donc, je me suis orienté sur le métier de kiné, voilà. Après coup, disons, en première intention, pourquoi pharmacien?
Ouais. Tu te rappelles ou
pas? Je ne m'en rappelle pas, non, sincèrement.
Ouais. Ouais.
Et tu saurais dire, qu'est-ce qui a fait que tu t'es orienté vers le soin aux autres, justement, là ce...
Ah, on dit souvent qu'il y a des... entre le métier que l'on fait et son histoire personnelle. Peut-être l'histoire maternelle, avec une mère qui a eu beaucoup de soucis de santé et qui en a encore aujourd'hui. Donc, possible.
D'accord.
Mmh. Et donc, c'était pharmacien ou kiné, c'était pas un médecin, c'était pas... Enfin, il y a plein de métiers de soins. Mmh. Kiné, c'est parce que quelqu'un s'était occupé de toi et que quand il s'est occupé de toi, tu t'es dit « Ah ouais, ça c'est... »
Ça fait le lien entre le soin et le travail sur le corps. Je suis quelqu'un de, tu l'as dit, de sportif. Donc le travail sur le corps, sur soi-même et cet apprentissage, ce don aux autres à essayer d'apporter ça aussi, ça m'a éveillé, oui.
Finalement, tu es peut-être... Enfin, je pense... mieux kiné que tu aurais été pharmacien?
C'est bien probable, ouais, bien probable, parce que je ne regrette rien. L'échec de pharmacie m'a ouvert complètement les portes de la kinésithérapie que j'avais en première intention aussi. Mmh. Donc en fait, aujourd'hui, avec le recul, je suis heureux.
Mmh. Et donc, ce qui t'intéressait dans la kiné, c'est, peut-être qu'on peut dire kinésithérapie. Donc kinésie...
Alors, là aussi, c'est la thérapie par le mouvement.
Voilà, c'est la thérapie par le mouvement. Ce n'est pas la thérapie pour mieux bouger. C'est le mouvement qui est thérapeutique.
Les deux.
Les deux,
oui. Les deux, parce que tu as affaire des fois à des patients qui n'ont pas de grand mouvement, parce que ce sont des gens très sédentaires, et puis qui ont besoin justement d'apprendre à bouger un petit peu leur corps pour mieux être. Et puis tu as des gens qui arrivent dans un cabinet de kiné, qui sont des sportifs avérés, et ceux-là, ils n'ont pas besoin qu'on les motive pour trouver l'énergie pour faire du mouvement, le sport. Ils sont peut-être même plutôt à calmer en disant « Hey, repose ton corps pendant un certain temps.
» Ok, oui. Donc, tout à l'heure, on en parlera, mais l'aspect thérapeute est aussi important dans le fait de, entre guillemets, coacher les gens.
Le relationnel.
Pour qu'ils soient soit plus raisonnables, soit qu'ils se...
Voilà. Soit qu'ils se bougent.
Oui. Alors du coup, donc tu nous disais
par rapport à mon parcours.
Donc, t'as fait l'armée.
J'ai fait l'armée donc dans le service de santé en tant qu'infirmier.
on m'a appris à faire des, un petit peu d'injection, des choses comme ça.
Oui, donc tu as une formation d'infirmier dans le cadre de l'armée, en fait.
Dans le cadre de l'armée, oui, okay. Oui. J'ai été en un mois à Nîmes. Donc là, on m'a donné, on va dire, des rudiments du métier d'infirmier. Hein. Je ne serais pas aujourd'hui un infirmier compétent dans un hôpital ou quoi que ce soit. Retour à Lyon, où j'étais à la base du Mont-Verdun, où j'ai passé un an de ma vie, somme toute, assez agréable, parce que en tant que, dans l'armée de l'air et en tant qu'infirmier, c'était agréable. Okay. Et puis ensuite, mon parcours d'étudiant en kinésithérapie dans la foulée, à Lyon, à l'école, l'IFMK de Lyon. Validation de mon diplôme en 1992. À l'époque, c'était 3 ans d'études, des stages. C'est toujours d'actualité aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que vous avez le cursus de kiné. C'est un mélange d'enseignement théorique-pratique et un mélange de stages que l'on fait dans les hôpitaux ou dans les cabinets de kiné.
D'accord. Et en termes de ratio ?
Pas loin de la moitié.
D'accord.
Ouais, j'imagine qu'au début, il y a beaucoup de théorie. Ouais. On apprend quoi, d'ailleurs ? La théorie, c'est quoi ? C'est de l'anatomie ?
Ah, l'anatomie, oui.
Ouais. Qu'est-ce qu'on apprend ?
Tout. Le squelette, les muscles, les nerfs, donc tout est appris. On parle peut-être tout de suite de tout le cursus. Aujourd'hui, c'est un système à bac plus 4. Avec la première année de médecine à incorporer, donc ça fait bac plus 5 aujourd'hui, ouais, pour les études, ouais, de kiné. Moi, quand j'ai été diplômé, c'était bac plus 3.
Mmh. Donc il fallait apprendre en 3 ans, déjà le corps humain, les pathologies.
Oui. Ouais.
Et puis la manipulation, ouais, j'imagine.
Pour, et oui. Et la pratique.
Et oui. Oui. C'est un métier, on dit masseur kinésithérapeute, même si aujourd'hui, pour les plus jeunes thérapeutes, c'est plus kinésithérapeute que masseur. Mmh. Donc ça, c'est encore un autre. Une autre réflexion. Moi, je pense que le métier de kiné, c'est un métier qui est à la base quand même manuel, que l'on doit garder comme étant manuel, et non pas simplement un métier où on va dire à un patient va faire ta numéro de vélo, va faire de la presse, etc. etc. Il faut faire les deux.
Oui. Quand tu dis va faire de la presse, qu'est-ce que c'est la presse ?
La presse, c'est un appareil pour renforcer les membres inférieurs, quadriceps essentiellement, fessiers.
D'accord, ok. Alors, dans ta formation, est-ce que ça correspondait à ce que tu t'imaginais, ou est-ce que tu as eu des surprises ? Est-ce que, tout ce que tu apprenais, tu te disais, c'est ce à quoi je m'attendais, ou alors il y a eu des découvertes des...
Non, ça c'est... le cursus que j'ai fait m'a ouvert sur le métier que je voulais faire, c'est un métier où on apprend, tous les métiers, on apprend toute notre vie. Mmh. Donc en fait, c'est un métier qui permet de se renouveler à fur et à mesure. On a en plus des formations obligatoires par cycle de 3 ans. Je signe des deux mains en disant que c'est un métier que j'ai épousé avec bonheur et qui m'a permis de m'épanouir.
Mmh. Donc dans la formation, c'était vraiment des choses qui t'intéressaient, que tu découvrais.
Comme dans toute formation, tu as des matières éventuellement dans lesquelles tu vas être beaucoup plus à l'aise et que tu vas faire avec amour, et d'autres que tu vas éventuellement te dire non, c'est pas ça. On apprend, je te donne un exemple, on va apprendre l'urogynéco. Tous les kinés ne font pas de l'urogynéco.
Oui,
voilà. On va apprendre, j'ai appris la prise en charge des grands brûlés, c'est un métier très spécifique, qu'on ne prend pas beaucoup en cabinet de ville, voire pas du tout maintenant. Donc c'est un métier au départ où on t'ouvre des portes pour exercer dans tout un tas de domaines, ouais. On te fait faire des stages dans tout un tas de domaines, et ensuite, en fonction de ta sensibilité, de tes envies, tu vas t'orienter sur les pathologies du sport, la neurologie, la cardiologie, l'urogynéco.
Mmh. Et oui. Du coup, toi, c'est quoi ta spécialité ?
Alors, j'exerce à Grenette en prenant beaucoup de patients BPCO. Alors, vous avez peut-être me poser la question, qu'est-ce que c'est ?
Qu'est-ce que c'est, BPCO ?
C'est les bronchopneumopathies obstructives. Ce sont des patients qui ont des troubles obstructifs, des voies respiratoires. Mm-hmm. Ce sont des patients qui ont soit travaillé dans des atmosphères polluées ou pour une bonne part des patients tabagiques, anciens tabagiques.
D'accord.
Donc ça, ce sont des gens qui, à fur et à mesure de leur vieillissement, ont du mal à respirer.
Oui.
Ont besoin, au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, parce que c'est une maladie qui ne se guérit pas.
Oui.
Ont besoin éventuellement d'un apport en oxygène. Tu vas avoir donc des gens qui vont, pour une bonne part, limiter leur vie parce qu'ils ont une capacité respiratoire qui devient de plus en plus limitée. Donc en fait, on fait beaucoup de la réhabilitation à l'effort, renforcement des membres inférieurs, les désencombrer quand ils sont encombrés.
Ouais, tu fais. Alors moi j'ai eu, quand j'étais enfant, moi j'étais très asthmatique et j'avais eu du clapping.
Alors ça, non, on ne fait pas. Et puis pour les bébés, ça ne se fait plus maintenant.
Ok, voilà. D'accord.
On fait du désencombrement en aidant le patient à faire sortir ses glaires en jouant sur les pressions, mais c'est en aidant avec une poussée thoracique,
okay.
Et puis en faisant participer le patient pour qu'il puisse refaire les exercices chez lui.
Mmh. Ok, très bien. Voilà. Mmh.
Alors, sur cette partie-là, il nous reste deux minutes. Je voudrais que tu nous dises donc ton parcours.
Mon parcours de vie depuis.
C'est-à-dire, oui, après ta formation.
Donc, en fait, je diplômé en 1992, j'avais fait des stages au Val-Rosay, centre de rééducation à Saint-Didier-au-Mont-d'Or. Le chef de service m'appréciait bien. Il m'a fait rentrer pendant mes études pour travailler pendant mes vacances d'été au Val-Rosay. Et ensuite, le marchepied était devant moi pour rentrer directement au Val-Rosay. Donc en fait, j'ai eu mon diplôme en juin ou juillet 1992. Dans la foulée, j'ai commencé à travailler là-bas. J'y ai fait 14 ans. Et puis après, j'avais fait un petit peu le tour du métier de kiné salarié. Avec les avantages et les inconvénients. Les avantages, c'est que tu as une vie qui est simple. Le soir, tu t'arrêtes à 4h30, 5h, ton métier est fini, tu passes à autre chose, etc. Et l'inconvénient, c'est qu'éventuellement, tu as une grille salariale qui dépend de luttes fratricides entre les syndicats, etc. Donc, si tu viens d'arriver, c'est fini. Ah,
oui,
oui. Excuse-moi.
Juste simplement, voilà, je signalais qu'il restait
une minute, quoi. C'est ça.
Voilà. Et donc, en 2006, j'ai quitté le Val-Rosay, qui m'a beaucoup appris en traumatologie, et pour arriver au centre Grenette à Villefranche-sur-Saône.
D'accord.
Voilà. Et donc là, je suis depuis 20 ans, je suis au centre Grenette, où on est une grosse équipe.
Ok. On va faire la pause musicale maintenant, et puis on continuera notre échange
tout
après.
À fait. Thank you. et auditeurs de Caladma Radio. On est toujours sur l'émission Les Couleurs du Monde, qui, pour ce mois de mars, est consacrée à la profession de kinésithérapeute avec Hervé, qui est l'invité de Hervé. Et du coup, on va reprendre alors où on en était tout à l'heure. Hervé, je te repasse la parole. Mais avant ça, le deuxième Hervé va nous dire ce qu'on vient d'écouter.
Mylène Farmer, Désenchantée.
Et alors, pourquoi tu avais choisi ce titre ?
C'est une chanteuse que j'apprécie beaucoup, qui est pleine d'énergie. Quand on la voit sur scène, c'est très bien.
Ok. Tu l'as vue sur scène déjà ?
Oui, oui.
Ah, génial.
2019,
j'aurais beaucoup aimé pouvoir faire ça.
Ah oui. Non, c'est
trop chouette.
Des shows qui sont assez fantastiques.
Ouais, tout à fait.
Ok, ouais, les concerts avec les artistes, hein, c'est toujours des...
Ah ben, c'est des moments de vie. Ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. C'est des moments de partage, quel que soit l'artiste.
Ok, alors, avant de passer à la deuxième partie, ça m'intéressait de voir dans la clinique là, de Val...
Le centre de rééducation du Val-Rosay.
Ouais. Tu peux nous dire un peu ce que tu faisais ?
Alors, à l'époque, le Val-Rosay, c'est un centre essentiellement tourné sur les polytraumas, polytraumatisés, pour être plus précis. On prenait des ex-santé de la voie publique, accidenté du travail et tentative de suicide. Aujourd'hui, le Val-Rosay, c'est un centre qui prend beaucoup moins de polytraumatisés, qui fait de la neuro, qui fait de la cardio, etc. Et donc, à l'époque, des gens qui étaient cassés, j'allais dire, entre guillemets, des pieds à la tête, c'était notre pain quotidien.
Et tu faisais quoi avec ces personnes-là ? Ça consistait en quoi là ?
Un suivi sur des mois, pour récupérer les amplitudes articulaires, récupérer les forces musculaires, ce qu'on pouvait récupérer, ressortir l'envie de vivre pour permettre à ces gens qui avaient été gravement blessés et qui arrivaient allongés dans un lit avec des fois des poids pour les mettre en traction, des fixateurs externes, des plâtres et tout un tas d'autres techniques, de remarcher, d'avoir envie de remarcher, de ressortir de leur lit, de se mettre dans un fauteuil roulant et ensuite, pourquoi pas, de remarcher. Donc c'est un travail de longue haleine, hein. C'est un travail d'équipe. Il y avait les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, des profs d'éducation physique. Donc il y avait beaucoup de travail manuel, travail en piscine. Et il y avait les médecins, les psychologues, parce qu'on prenait aussi... Alors, que ça soit polytraumatisé de la route, du travail ou tentative de suicide, il y avait des psychologues pour aider aussi bien l'équipe que pour aider les patients.
Donc ce qui nous intéressait, c'est le travail en équipe.
C'était un travail passionnant, oui.
Et puis la relation humaine, d'après ce que je comprends.
C'est le pivot, oui. C'est un pivot. C'est, mais c'est, tout à l'heure, on parlait de psychologie. Moi, je me rappelle, j'ai un cas qui m'avait marqué à l'époque. Un patient qui était artisan et qui avait eu un gros accident. Alors, je ne sais plus si c'était du travail ou de la route. Il avait une grosse fracture de jambe et il était bien embêté parce qu'il avait des presses sur le dos. Et ça, son accident l'avait quand même plongé dans une certaine détresse. Et il avait des assurances qui allaient se mettre en route sur ses prêts, mais avec un certain délai. Et il s'avère que ces plaies, on s'est rendu compte que ça s'était infecté. Donc le médecin commence une charge antibiotique et puis il se rend compte que ça ne fonctionne pas. Donc il teste un deuxième antibiotique et puis ils avaient fait faire une hémoculture. Et puis en fait, il s'est avéré que les plaies qu'il avait, parce qu'il avait un fixateur externe, et donc il se souillait ces plaies avec des matières fécales.
Lui ?
Lui.
Et pourquoi ?
Pour faire traîner son hospitalisation, pour être sûr que son assurance allait le prendre en charge pendant sa période.
Ok.
Voilà. Donc c'est des cas assez surprenants.
C'est assez dingue parce qu'il risquait quand même... très risqué, non ?
Oui, mais c'est... Alors on peut parler de souffrance, on peut parler de souffrance physique et de souffrance psychologique.
Oui, parce qu'il avait cette pression d'avoir le prêt et donc il prenait
Il a réagi décision. Comme ça, donc c'est ça fait partie des cas de surprenants. Quand tu n'es pas confronté à ça, de dire que cette personne, elle en arrive à se souiller ses propres plaies avec des matières fécales pour faire traîner le dossier, etc.
Ok. Bon, merci pour de nous avoir dit ce que tu faisais avec ces personnes qui sont des pathologies lourdes. J'imagine que tu n'as pas rencontré après dans ton cabinet.
En étant en libéral, on peut prendre éventuellement en charge des gens qui sortaient ou qui sortent du sérail d'un centre de rééducation. Oui, mais là, le gros du travail était fait avant.
Oui, c'est ça.
Le gros du travail était fait avant quand même. Donc aujourd'hui, à Grenette, on prend des patients qui ont des polytraumas, mais c'est bien plus évolué.
OK.
Galade.
Les couleurs du monde.
Voilà, donc... on est toujours sur l'émission Couleurs du Monde. Donc, c'est Hervé, kinésithérapeute, qui est notre invité. Dans une première partie, on a vu ton parcours. Voilà, qu'est-ce qui t'a intéressé dans la kiné, et puis jusqu'à maintenant. Je voudrais que tu nous dises un petit peu cette profession. Est-ce qu'elle a toujours existé? Et quand elle a commencé à exister, qu'est-ce qu'il y avait avant? Enfin, voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu... pour mieux connaître cette profession au niveau historique.
Alors, au niveau historique, le métier est un métier assez jeune. Il a été officiellement reconnu en 1946. C'est la même année que la création de la Sécurité sociale. Et alors, si on remonte aux origines du métier, les Grecs, les Romains et bien d'autres en Orient avaient, créé des soins pour le corps. Ensuite, les guerres ont beaucoup influencé la médecine, que ce soit la médecine pure, médecin, mais aussi la rééducation. Les guerres de 14-18 a été aussi un grand pourvoyeur d'aide pour essayer de récupérer ce qu'on pouvait récupérer. Et le métier de kiné donc a commencé dans les années 20 avec des infirmières qui avaient des diplômes de massage pour devenir masseuse dans les hôpitaux. C'était un métier essentiellement hospitalier. Ensuite, ça a évolué tout doucement mais sûrement vers l'arrivée de 39-40. Le régime de Pétain avait séparé les gymnastes thérapeutiques et les masseurs thérapeutiques. Et ensuite, en 1946, donc, ils ont regroupé ces deux métiers pour faire le même métier de masseur-kinésithérapeute. C'était à l'époque en 2 ans d'études. Et à fur et à mesure, entre 1946 et maintenant, donc les années qui se sont écoulées, ont vu passer en 3 ans d'études, 4 ans d'études et maintenant 5 ans d'études.
Qu'est-ce qui explique cet allongement des études ?
Qu'est-ce qui explique ? Alors,
les jeunes sont de moins en moins bons.
il faut répéter pour qu'ils apprennent, c'est ça. Non.
Est-ce qu'il y a plus de choses à apprendre?
On demande plus pendant les études. On demande plus. Dans l'absolu, au départ, c'était des masseurs. Ils apprenaient pas forcément toute l'anatomie, toutes les pathologies que l'on peut connaître aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes qui sont formés, qui sont diplômés, ce sont des très bons thérapeutes.
Oui, il y a des connaissances médicales à avoir, des connaissances des pathologies.
Et le métier a bien évolué. Dans les débuts des années 2000, on a commencé à donner le droit au kiné à prescrire.
Eh oui.
Voilà.
Okay.
Donc, le métier évolue.
Oui, de fait, ayant plus de responsabilités, entre guillemets, forcément, on leur demande d'avoir une formation plus solide.
Voilà, oui. Donc, ce sont des gens qui, aujourd'hui, dans leur cursus, on demande de plus en plus de travail, de recherche, de publication, des choses comme ça. Donc, ça se paye.
Oui, bien sûr.
Alors, moi, je suis allé voir, il y a quelques années, un kiné vestibulaire. Et donc, j'ai découvert que la kiné, ce n'était pas seulement ce que je connaissais pour les entorses. Tu peux nous dire les différentes branches
Oula.
Il y en a beaucoup ?
Oh oui. Tu vas donc kiné vestibulaire, oui, ça en fait partie.
Donc c'est quoi la kiné vestibulaire ?
Tout ce qui est travail sur l'équilibre.
Oui.
On était bien d'accord. Hein.
Oui, tout à fait. Non, mais c'est pour les. Moi, c'est l'oreille interne.
Ouais. Troubles de l'équilibre, tu vas pouvoir voir des kinés qui s'occupent de tout ce qui est trouble maxillofacial. Tu vas pouvoir voir.
Attends, maxillofacial, ça veut dire ?
Le visage travaille sur les gens qui ont des troubles de paralysie au niveau du muscle du visage.
Et donc, on va aider les personnes à faire remarcher les...
À retravailler les muscles du
visage.
Tu vas pouvoir voir des kinés plus spécialisés. Alors, c'est la grande mode, mais c'est parce que c'est efficace aussi. Tout ce qui est troubles sportifs. Donc, il y a des cabinets qui font que des patients sportifs. Tu vas pouvoir aller voir des kinés qui font de l'urogynéco. Tu vas pouvoir aller voir...
Alors, l'urogynéco, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a?
Mais pas que les femmes, ça ne concerne pas que les femmes.
Alors, hein. Vas-y, explique-nous.
Et ben, éventuellement, les cancers colorectaux.
Et donc, il y a une rééducation.
Les troubles urinaires, même pour nous, pour les hommes. Un homme qui se fait opérer de la prostate aujourd'hui, il peut avoir des troubles urinaires.
Et le kiné, et donc, il va avoir de, peut améliorer la...
Bien sûr.
D'accord. Par des mouvements, par des...
Par des mouvements. Alors, quand tu entends mouvement, moi j'entends plus contraction musculaire, c'est retravailler les sphincters pour récupérer une...
C'est marrant, mais par exemple, pour nous les femmes, ouais, on passe par les sages-femmes pour faire la rééducation, oui, du périnée quand on a eu des enfants. Mais ouais, ça pourrait aussi bien passer par vous finalement.
Ah, c'est pas que ça pourrait, c'est que ça passe aussi par
ça des... Ça passe
des
aussi, tumeurs. D'accord,
ouais,
ok.
Ouais. Alors c'est vrai que les sages-femmes en font. Des kinés, c'est essentiellement des kinés femmes qui font ce type de prise en charge, et je le comprends très bien.
D'accord. Ouais, okay. Sincèrement, moi je savais même pas que je pouvais aller voir un kiné. Je suis allée voir ma sage-femme parce que c'était la suite logique.
Oui, oui, oui.
Je trouve que c'est intéressant de rencontrer une profession comme ça, comme on fait en ce moment, parce qu'on découvre des choses qu'on croit connaître. Et un peu comme les élèves qui croient savoir ce que c'est que le métier de prof. Et puis le jour où il y en a que certains deviennent profs et en fait se rendent compte que c'est pas ce qu'on croyait.
Tout à fait.
Ok. Mais tu veux dire quelque chose, une dernière chose?
Un jour, je prenais en charge des genoux opérés, des ligaments croisés. Mm-hmm. Et puis j'ai un patient qui me dit, c'est fou comme il y a beaucoup de ligaments croisés, des gens qui sont opérés de ligaments croisés. J'ai dit, non, mais là, en fait, au Val-Rosay, au centre Gonette plutôt, on prend beaucoup de patients opérés du genou, donc tu en vois beaucoup. Tu vas dans une maternité, tu vois beaucoup de femmes qui accouchent et tu dis, il y a beaucoup de naissances. Ben, non, parce que tu es dans une...
Eh oui, c'est... Mm-hmm. Bien sûr.
Tout à fait, Ok, on va passer à la deuxième
pause musicale. C'est parti.
Thank you.
auditrices et auditeurs de Calade Ma Radio. On est toujours sur l'émission Couleurs du Monde, en compagnie de Hervé et Hervé, pour parler de la profession de kinésithérapeute. Et alors, tu vas nous dire, Hervé, ce qu'on vient d'écouter de nouveau.
Dire Straight, Walk of Life, avec un bon anglais.
Très bien. Et alors, pourquoi tu l'as choisi, cette chanson?
Bon, c'est une question, c'est ma jeunesse, quelque part. Mais surtout, je les ai vus en concert au Parc des Villars, les Dombes, au musical. Et voilà, c'est un souvenir plein d'émotions.
Très bien. Alors, okay. Je te redonne la parole, Hervé.
Merci. Donc, tu nous as d'abord présenté ton parcours. Ensuite, tu nous as parlé de la profession, de la naissance de la profession, de l'évolution. Donc aujourd'hui, c'est 5 ans d'études. Mm-hmm. Voilà ce que je me suis dit aussi en préparant l'émission. Je me suis dit peut-être que des personnes vont nous écouter, alors soit des jeunes, soit des parents, soit des grands-parents, et puis qui vont dire « Ah, mais tiens, cette émission, j'ai écouté, pourquoi tu ne ferais pas kiné ?» Et la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui peut donner envie à un jeune aujourd'hui de faire kiné? Tu te rencontres en plus d'être à des stages de troisième ou un peu plus âgé?
On a fréquemment des jeunes gens qui accompagnent leurs parents et qui reviennent, les parents reviennent avec leur enfant 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard et qui nous disent est-ce que mon enfant peut venir faire un stage? Alors toi, tu le sais, dans le système éducatif, il y a des stages qui se font entre le collège et le lycée dans des établissements industriels ou autres, sanitaires. Et donc, on prend en charge des jeunes gens. Et ça m'est arrivé sur ma carrière d'avoir ces gens-là qui viennent pour un stage en troisième ou en première, je ne sais plus, et puis qu'on revoit 2, 3, 4 ans plus tard et qui ont franchi le cap, qui sont devenus étudiants en kinésithérapie et qui reviennent ensuite et qui disent bah, « Tiens, je suis en première, en deuxième année, est-ce que je peux venir faire un stage ?» C'est assez sympa.
Ouais.
C'est assez sympa.
Et imagine, t'as un jeune devant toi, mettons 15-16 ans, il dit bah, « je sais pas ce que je veux faire », tu sens qu'il y a une fibre un peu d'aider les personnes. Qu'est-ce que tu vas lui dire pour lui donner envie d'être kiné?
Quelle est la base pour qu'il puisse devenir, qu'il puisse faire le cursus ou...
Non, qu'est-ce qui va lui donner envie? Qu'est-ce que tu vas lui dire pour lui donner envie?
Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire que c'est un métier où il pourra venir au travail avec le sourire, parce que c'est un métier où on rencontre du monde du début de l'année jusqu'à la fin de l'année et on voit des gens que l'on prend avec leurs mots et que l'on voit évoluer, et c'est enrichissant et c'est plein de bonheur que de voir que des gens qui éventuellement viennent avec 2 cannes posent les cannes et puissent remarcher. C'est gratifiant.
Ouais. Donc il y a la relation humaine d'être avec ces personnes là et puis de leur apporter quelque chose, un mieux-être.
Ah, ça c'est clair. Ouais. Oui.
Ouais. Moi, ce qui m'a frappé, donc moi je suis allé dans ton cabinet, tu m'as suivi pendant plus d'un an, hein, je crois. Et ce qui m'a frappé, c'est cette qualité de relation. Les gens, souvent, ils viennent avec plaisir. Et d'ailleurs, je vais vous lire ce qu'il y a dans le cabinet d'Hervé. Je pense que si vous avez... tu vois ce que je vais lire?
Oui, je vois.
Donc,
tu attises notre curiosité, là.
Oui.
Ici, on aime. Masser, rigoler, discuter. Dire bonjour et merci, les gens à l'heure, les lumbagos, tendinites, torticolis, faire souffrir et en rire, se détendre, l'échauffement, le sport, les étirements, boire et manger entre deux, chouchouter et coucouner, les enfants, les parents, les grands-parents, et vous rendre plus heureux. Bienvenue chez le kiné.
Oh, ouais. C'est génial.
Ouais, c'est un... c'est une de mes consoeurs qui a trouvé ceci. Ça a été acheté, je crois, sur Internet. C'est un tableau que l'on a mis dans le cabinet et qui reflète bien, l'ambiance que l'on fait vivre et que l'on vit au cabinet. C'est-à-dire qu'on sait pertinemment que les gens vont venir dans un cabinet de kiné avec leur douleur qui est plus ou moins prégnante et qui les fait souffrir moralement et physiquement. Et que si on ne crée pas un petit peu ce grain de folie avec cette ambiance où les gens viennent et vont passer un bon moment, eh ben on va avoir du mal à motiver les patients à venir et revenir, sachant que pour certains, la prise en charge peut être assez longue en fonction de la maladie. Et donc, moi, j'ai toujours... travailler dans cette ambiance-là, c'est-à-dire de faire en sorte que le patient, il vienne, il arrive et il sourit. Voilà. Mais il est accueilli avec un sourire.
C'est chouette.
Oui, oui, ça demande effectivement, parce que bien sûr, il y a des fois où tu dois être un peu plus fatigué ou moins de morale, et donc de prendre sur toi pour accueillir.
Oui, évident que un thérapeute, quel qu'il soit, il a sa vie. C'est évident, avec ses hauts et ses bas, etc. Ouais. Mais avant tout, quand il est au cabinet, il est au cabinet.
Ouais, ouais, ouais. Et quels sont les ingrédients pour qu'une thérapie marche bien ?
L'alchimie entre le thérapeute et le soigné.
Donc, ouais, déjà, cette alchimie, cette qualité de relation que tu facilites en accueillant par le sourire.
Je vais te dire, oui, c'est... Comment expliquer que tu vas apprécier de passer du temps avec un thérapeute pendant des semaines et des heures et des semaines ? C'est difficile à expliquer parce que c'est ce qui fait ta personnalité à toi. Donc toi, en tant que prof, comment tu vas faire en sorte d'être motivé tes élèves à t'écouter ? Et moi, en tant que thérapeute, à faire en sorte que le patient soit prêt à, pendant une heure ou une heure et demie, à accepter de faire des efforts pour lui.
Il y a des patients, c'est une question un peu bizarre peut-être, mais tu as des patients chouchous, enfin, où vraiment tu te dis à lui, ah, aujourd'hui il y a lui ou elle, c'est trop sympa. Et à l'inverse, des où tu te dis, ouf.
Oui, c'est évident que tu. Je suis plus près de ma fin de carrière que du début. Sur ma carrière, j'ai deux patients qui ont été marquants pour moi et que je revois, à qui je fais du sport, etc.
Ah ouais.
Voilà. L'un s'appelle Stéphane. Il a été victime d'un accident. Il était accompagnateur de montagne et à l'étranger. Il a été rapatrié en France. Grosse fracture, perte de substance, infection, etc. etc.
Okay.
Et c'est un patient, quand j'étais au Val-Rosay, donc je l'ai pris en charge. C'était au début des années 2000. C'était avant mon départ, juste avant mon départ. Et avec ce patient-là, j'ai vécu des choses assez sympas parce qu'à l'époque, je m'étais investi dans le fait de demander à la direction du Val-Rosay de pouvoir faire sortir des patients du cadre de l'établissement.
Okay.
Et donc, avec l'ambulance, Stéphane, on l'avait amené au stade Geoffroy Guichard pour voir un match de championnat. Il était dans son fauteuil avec un fixateur externe, du matériel, etc.
Ah, c'est super.
Ça fait partie des bons souvenirs.
Il reste 5 minutes, c'est ça, Emma ? Oui.
Et un autre patient, pareil, avec qui je fais du vélo aussi encore aujourd'hui, que lui, par contre, j'ai eu en relation ici au centre Grenette, et qui était un gros coureur de course à pied, blessure musculaire à répétition, et à qui j'ai ouvert les yeux tout doucement mais sûrement pour lui dire il faut que tu arrêtes la course à pied, il faut que tu te mettes au vélo, parce que la course à pied à ton âge, ça va commencer à devenir compliqué.
Mmh.
Voilà. Et aujourd'hui, il fait partie d'une bande de copains. On part faire du vélo une fois par an, un coup dans les Alpes, un coup dans les Pyrénées. Mmh. Et cette année, c'est nos 15 ans de vélo, on va aller dans les Baléares.
C'est chouette, elle tombe à pic cette émission.
Oui,
alors.
Oui, oui.
Petit hommage.
Voilà, donc ça fait partie des bons souvenirs. Après, oui, tu peux avoir des patients où c'est plus difficile parce que la psychologie du patient est plus réfractaire à une prise en charge, parce que tu peux avoir des patients qui n'acceptent pas l'idée que aide-toi et le ciel t'aidera quelque part aussi.
Oui,
donc le kiné comme le médecin, c'est pas non plus l'assurance d'être guéri. Si le patient ne veut pas,
bien sûr,
tu ne peux pas.
Oui.
Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de psychologie à mettre en place. Oui, tu fais en sorte d'essayer de trouver les clés pour permettre au patient d'accepter de faire des choses pour lui.
Oui.
Voilà. Mmh. Ça, il faut arriver. Mmh. Si tu n'y arrives pas, c'est que, bon, quelque part aussi, soit tu n'as pas été suffisamment bon, soit le patient est complètement réfractaire et vit avec sa maladie pour sa maladie. Et là, tu ne pourras pas grand-chose.
Mmh. Mmh. Tu as le souvenir d'un patient avec qui, comme ça, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là, une patiente ? Est-ce que tu... Comment...
Ça a pu arriver, oui, des patients. Alors, je n'ai pas de souvenir... j'ai un souvenir d'un patient où ça s'était terminé assez rapidement. Parce que le patient était... J'avais osé le faire attendre 10 minutes. Et c'était la quatrième séance. Et un monsieur de retraité, et qui m'a dit, à la fin de la séance, il me dit, je vous donne ma carte vitale, c'est fini. Je lui dis, ah bon, mais on n'a pas terminé les soins. Il me dit, mais vous m'avez fait attendre 10 minutes. Et là, je me suis dit, bon, si tu n'es pas capable d'attendre 10 minutes, c'est dommage.
Ouais. Oui, si je cherchais peut-être une bonne excuse pour ne pas continuer. Ouais.
Et puis à côté de ça, j'ai un souvenir. Alors pareil, par rapport aux patients à qui on peut demander, on demande de donner un petit peu de soi-même. C'est un jour, une dame qui venait pour un lumbago, donc les choses assez classiques. Première séance bilan en la masse, deuxième séance masse, etc. Puis à la troisième séance, je commence à lui dire on va commencer à faire des exercices. Ben, il y a eu une troisième séance, mais il n'y a pas eu de quatrième séance.
Voilà. Ouais. Elle est parvenue, c'est ça?
Elle est parvenue.
Oui, je pense que c'est comme ça que ça se termine. Les gens mettent un terme.
Oui, quand on commence à demander des petits efforts, très rapidement, on se rend compte que si les gens.
J'ai remarqué, quand tu demandes quelque chose, tu dis toujours s'il te plaît.
Ah, l'éducation qui ressort.
Je ne crois pas que ce soit une question d'éducation. Je pense que c'est un peu comme un prof. On demande quelque chose à un élève, on dit s'il te plaît. On y met les formes, même s'il n'a pas le choix, en fait. Mmh. Parce que c'est l'exercice qu'il a à faire. Mais tu mets les formes pour aider à la...
Mais ça me paraît... un s'il te plaît, un merci, c'est...
En fait, ça aide à la relation, finalement, parce que c'est un métier relationnel.
Exactement. Bien sûr.
Ouais. Alors moi, juste pour terminer, est-ce que tu peux nous dire quelle est ta manière de faire? Est-ce que quelque chose que tu fais, toi, et que les autres ne font pas, ou une manière de faire, ta touche unique, est-ce que tu as... Ou un point fort, ou je sais pas, quelque chose qui fait que... Alors moi, je pense que nous sommes... irremplaçable, non pas indispensable, mais irremplaçable. Mmh. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait le même métier que toi, il ne fait pas de la même manière.
C'est évident.
Mmh. Alors toi, c'est quoi ta manière?
Alors, je pense que je suis peut-être le kiné dans le groupe qui met le plus d'ambiance. Voilà, Et qui... quand je suis absent certains jours, les patients disent « Ah, ça fait plaisir de te revoir », etc. Parce que je suis peut-être celui qui met le plus d'ingrédients dans l'ambiance qui règne, et ça plaît aux patients.
Ça plaît aux patients. Et quand on est dans un cabinet où les professionnels entre eux s'entendent bien, ça favorise.
Ça se sent, ça transparaît.
Ah, c'est clair.
Ouais, c'est sûr.
Il nous reste combien de temps, Emma?
Là, on va conclure.
On va conclure. Alors, je voudrais juste que nous disent quel conseil tu donnes aux gens pour qu'ils restent en bonne santé?
Prendre soin d'eux.
Oui, comment?
En ayant une activité physique régulière, pas devenir des champions du monde, mais en ayant une activité physique régulière, un corps, on habite notre corps, et ça ne viendrait pas à l'esprit des gens de prendre une voiture, de la laisser sur un parking pendant 2 ans, sans bouger.
D'accord.
Donc, bougeons notre corps.
Voilà, on va terminer.
Ce sera le mot de la fin.
Ça. Prenez soin de vous. En bougeant votre corps.
Oui.
Tout à fait. On te remercie beaucoup, Hervé.
Merci.
Donc Hervé, le thérapeute, et aussi Hervé qui pour ce soir a pris la casquette d'animateur. Merci beaucoup. Et à la prochaine, auditrices et auditeurs.
Merci, au revoir.
Calade. Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture.
De Villefranche à Tataouine.
Sur le 100.9 et radio-calade.fr.